Bon après-midi. Merci de votre patience. Le secrétaire général va commencer par ses remarques préliminaires en ce qui concerne la ministérielle qui aura lieu mardi et mercredi. Bon après-midi. En l'espace de moins de 4 semaines, nous allons nous réunir à Varsovie pour notre sommet. Ce sommet qui se tiendra à un moment très marquant pour notre sécurité. L'OTAN a pris des mesures fortes pour protéger nos nations et contribuer à la stabilité dans notre voisinage. Mais les défis auxquels nous sommes confrontés s'inscrivent dans la durée. Nous devons donc être prêts pour faire face à ces défis dans la durée. Dans les 2 jours à venir, les 2 jours qui vont suivre, les ministres de la Défense vont poser les bases des décisions qui seront prises lors du sommet de Varsovie. Tout d'abord, nous allons renforcer notre dissuasion et notre défense à travers l'Alliance pour faire face aux menaces provenant de toute une série de directions. En février, nous avons décidé de renforcer notre présence avancée sur le flanc est de l'Alliance. Nous sommes en train de discuter de la taille, du périmètre et de la composition de cette force. Sur la base de l'avis de nos planificateurs militaires, nous allons décider de déployer par rotation 4 bataillons multinationaux dans les États baltes et en Pologne. Ceci constituera le message clair selon lequel l'OTAN restera prêt à défendre tout allié. Mais notre défense et notre dissuasion ne reposent pas uniquement sur 4 bataillons. Ces bataillons font partie d'un changement majeur de notre posture en réponse aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons triplé la taille de la force de réaction de l'OTAN. Nous sommes passés à 400 000 hommes de troupes. Nous avons mis en place une nouvelle force fer de lance au cœur de ces troupes, c'est-à-dire composée de 5 000 personnes prêtes à se déplacer en l'espace de quelques jours. Nous avons également mis en place 8 petits nouveaux QG dans la partie est de notre alliance afin de coordonner la planification, les exercices et les mesures de renforcement. Il y aura également davantage d'équipements et d'approvisionnements prépositionnés. Tout cela nous permet d'arriver à un juste équilibre entre une plus grande capacité de renforcement et également le renforcement de notre présence avancée. Nous avons également pris des mesures pour que nos troupes puissent se déplacer plus rapidement à travers l'Europe. Nous l'avons fait pour les exercices et le renforcement, si le renforcement devait être nécessaire. Les gouvernements et parlements nationaux ont travaillé longuement pour la mise en œuvre des procédures et pour déblayer tous les obstacles. Nous avons accompli des progrès majeurs. Le mois dernier, la force de frappe a mené un exercice qui a permis de montrer ce que nous avons déjà accompli comme terrain. 1000 troupes et 400 véhicules militaires se sont déplacés de l'Espagne vers la Pologne en l'espace de 4 jours. Nous continuerons à essayer d'améliorer la liberté de circulation pour nos troupes et équipements, car en période de crise, la vitesse peut faire toute la différence. Aussi, nous avons renforcé nos forces et nous avons également augmenté notre vitesse. Mais pour pouvoir maintenir le cap dans la durée, ce nouveau cap, nous devons consacrer davantage à notre défense. Il y a 2 ans, nos pays ont pris un engagement qui de mettre fin aux réductions de défense, d'accroître les dépenses en termes de défense et de viser notre jalon d'investissement de 2% PIB pour la défense dans l'espace de cette décennie. Sur le front des dépenses, les nouvelles sont plus mitigées, mais nous avons néanmoins des bonnes nouvelles à vous communiquer aujourd'hui. Je puis d'ailleurs vous faire part de notre chiffre définitif pour 2015 et de nos estimations pour 2016. À la fin de la guerre froide, il y a eu un déclin important dans les dépenses de la défense au sein des alliés européens et au Canada. 2015 est la première année après de nombreuses années où nous avons enregistré une légère augmentation des dépenses en termes de défense, et vous le voyez sur la planche qui est à l'écran. Nos estimations pour 2016 enregistrent également une nouvelle augmentation. Ceci, j'insiste, ne sont que des estimations, mais qui sont néanmoins très encourageantes. Le changement annuel se situe aux alentours de 1,5%, une augmentation de 3 milliards de dollars américains. Et 20 alliés ont l'intention de dépenser davantage en termes réels sur la dans les programmes de défense cette année. Donc voilà, nous assistons là à de réels progrès. Après de nombreuses années où nous étions dans la mauvaise direction, nous voilà enfin dans la bonne direction. Notre rapport consacré à cela, je ferai un rapport sur cela au ministre et également lors du sommet de Varsovie. Mais nous avons encore un chemin important à parcourir et nous devons faire davantage pour augmenter le niveau de dépenses en termes de défense et atteindre le jalon de 2% et le faire dans le cadre des priorités que nous avons recensées en tant qu'alliance. Deuxième, nous allons nous concentrer sur la projection de la stabilité au-delà de nos frontières en apportant un appui à nos voisins et nos partenaires. En effet, un voisinage stable nous garantira la sécurité à tous. Lors de la réunion ministérielle, nous allons voir comment nous pouvons étendre notre effort de renforcement des forces locales en leur permettant d'assurer la stabilisation de leur propre pays et de lutter contre le terrorisme. Un exemple, c'est l'Irak. Nous allons également mettre à disposition des avions de surveillance AWACS à l'appui de l'effort de la coalition mondiale contre l'île. Et nous allons voir également ce que nous pouvons faire en tant qu'OTAN dans la mer Méditerranée, par exemple dans l'appui de l'opération de l'Union européenne SOFIA. Notre coopération s'est avérée également très efficace dans la mer Égée, où les bâtiments de l'OTAN contribuent pour interrompre les voies de contrebande d'êtres humains. Nous allons aborder l'avenir de notre coopération, de la coopération entre l'OTAN et l'Union européenne, avec la haute représentante Mogherini et en la présence des ministres de Finlande et de Suède. La projection de la stabilité est également une action très importante dans notre voisinage oriental. Nous allons donc explorer le potentiel d'assistance complémentaire pour l'Ukraine et la Géorgie. Mercredi, nous allons rencontrer le ministre de la Défense ukrainienne au sein de la commission OTAN-Ukraine. Nous sommes vivement préoccupés par la situation de sécurité et les violations du cessez-le-feu qui se poursuivent en Ukraine orientale. Nous allons discuter de la cadence des réformes accomplies en Ukraine et de l'appui apporté à cet égard par l'OTAN. Vous voyez que dans les quelques jours à venir, nous allons prendre des décisions importantes pour renforcer notre défense et notre coopération avec les partenaires. Je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je vais donner la parole d'abord à Reuters, à quatrième rang. Reuters, Monsieur le secrétaire général, je viens de revenir de la région baltique où je me suis entretenue avec des responsables qui souhaiteraient que la police du ciel devienne plus un système de défense du ciel. Ils sont évidemment disposés à y contribuer à leur niveau, mais ils voudraient le soutien de l'OTAN. Puis-je vous demander quel est votre avis sur la question? Réponse. L'OTAN menait des missions de police du ciel importantes dans la région baltique. Les alliés sont engagés à poursuivre cette opération et contribuent en termes de force d'avions dans la police, la mission de la police du ciel de la mer Baltique. Nous régulièrement réévaluons les besoins et les exigences pour cette mission et pour voir comment nous pouvons faire en sorte que notre présence dans la mer Baltique soit la présence optimale. Et lors de cette réunion, d'ailleurs, nous serons appelés à prendre des décisions visant à accroître notre présence dans la région baltique, une présence avancée de troupes OTAN. Nous aurons un bataillon robuste, un bataillon dans chacun des pays de la région baltique. Les alliés sont donc fortement engagés dans cette mission de police du ciel. Nous mettons à disposition les forces, les capacités nécessaires et nous réévaluerons régulièrement donc les exigences de cette mission à l'avenir.
Yes, James Cantor.
James Cantor, New York Times. Monsieur le secrétaire général, l'OTAN est bien entendu une organisation de défense. Sachant ce qui s'est passé à Orlando, est-ce qu'il y a des choses concrètes que l'OTAN peut dire à ce stade, sachant ce qu'elle pourrait faire pour contrer la menace croissante provenant de cette forme de terrorisme? Tout d'abord, je tiens à exprimer mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers, à toutes les personnes blessées, et je voudrais également faire part de mon soutien, de ma compassion à toute la communauté LGBT et à toute la population des États-Unis. Il faut rappeler que le terrorisme ne réussira pas à changer qui nous sommes. Nous allons continuer à défendre nos sociétés de liberté et d'ouverture. Ce sont là précisément les valeurs que l'OTAN défend. Ce sont les valeurs qui ont été attaquées à de nombreuses reprises par le terrorisme et l'extrémisme. Pour lutter contre la violence, pour lutter contre le terrorisme, il faut employer de nombreuses méthodes, de nombreux moyens différents. Il y a bien sûr les forces de police au niveau national, le renseignement national. Et ce que l'OTAN peut faire, c'est d'essayer de se concentrer davantage sur les causes, les origines, travailler avec nos alliés pour essayer de lutter contre l'instabilité, les turbulences dans nos voisinages, car nous savons que ce terrorisme, cet extrémisme peut frapper dans nos rues. Nous l'avons vu à Bruxelles, à Paris, à Ankara et dans beaucoup d'autres villes des pays membres de l'Alliance. L'enquête est en cours suite aux actes affreux qui ont été commis à Orlando, donc je ne vais pas en parler davantage maintenant, mais je voudrais simplement rappeler que les alliés de l'OTAN continuent à lutter contre le terrorisme et à défendre les valeurs de liberté et d'ouverture de nos sociétés. Question. Monsieur le secrétaire général, lors de la dernière réunion des ministres des Affaires étrangères, vous avez rappelé qu'il fallait assurer la sécurité aux frontières de l'Alliance et j'aimerais savoir si vous avez l'intention d'aider le gouvernement irakien pour sa mission de formation afin de renforcer leur sécurité, la formation de leurs forces pour les aider à lutter contre Daesh et d'autres menaces. Réponse. L'un des principaux thèmes qui sera abordé lors des réunions des ministres de la Défense qui commencent demain et lors du sommet qui aura lieu à Varsovie au mois de juillet, ce sera ce que nous avons appelé la projection de stabilité. Projeter la stabilité, c'est pour l'OTAN travailler avec ses partenaires au sud, dans les différents voisinages, pour aider ses partenaires à lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. Bien sûr, nous devons le faire de façon ciblée dans différents pays. C'est ce que nous faisons en Afghanistan, où nous avons mis fin à notre mission de combat, mais nous avons une opération de formation, de conseil, pour aider les forces des pays concernés à lutter eux-mêmes contre le terrorisme et l'extrémisme, qu'ils puissent assumer la responsabilité de leur population. Ce travail, nous l'avons commencé aussi en Irak avec une formation d'officiers irakiens qui se fait en Jordanie. Nous sommes en train d'envisager maintenant d'élargir cette activité de formation pour pouvoir le faire en Irak même. Nous avons donc envoyé une équipe d'évaluation en Irak. Cette équipe est revenue il y a quelques jours et nous devons voir les conclusions de ce rapport, les demandes qui nous sont adressées par le gouvernement irakien pour voir comment mieux les aider dans leur lutte contre Daesh, pour les aider à stabiliser leur pays. J'ai rencontré le ministre Abadi qui a demandé davantage d'aide de la part de l'OTAN. C'est pourquoi nous lançons maintenant un système que nous souhaitons pouvoir approfondir. Plus de stabilité dans ces pays veut dire plus de sécurité pour nous. Balk Swinski, média polonais. Monsieur le secrétaire général, vous n'avez pas parlé de la Russie dans vos remarques liminaires, alors que lors de la précédente réunion ministérielle, celle des ministres des Affaires étrangères, il avait été dit que vous aviez évoqué la nécessité d'avoir une réunion du Conseil OTAN-Russie. Est-ce que cela veut dire que ce n'est pas encore arrivé à maturité, qu'il y a encore des questions à régler? Et quant au bataillon de la présence avancée, pouvez-vous nous dire quel est le calendrier? Réponse. Nous sommes en train d'envisager la possibilité d'organiser une nouvelle réunion du Conseil OTAN-Russie avant notre sommet. Mais bien sûr, il faut arriver à un accord avec la Russie sur l'ordre du jour, sur les modalités. Et c'est pourquoi, pour l'instant, je ne peux pas vous confirmer la date d'une telle réunion. Mais de façon plus générale, je peux souligner qu'en ce qui concerne l'OTAN, il est important d'assurer à la fois notre force tout en restant ouvert au dialogue. Nous ne voyons pas de contradiction entre la défense et le dialogue. Nous estimons que tant que l'OTAN reste forte, qu'elle arrive à assurer sa défense et de la dissuasion, elle peut avoir un dialogue politique avec la Russie. Et c'est précisément quand le niveau de tension est élevé, comme c'est le cas maintenant, qu'il est particulièrement important de maintenir ouverts les canaux de communication avec la Russie, notamment la communication entre militaires, pour au moins empêcher tout incident, éviter, si c'est le cas, qu'il y ait des conséquences graves. Nous allons continuer à essayer d'avoir cette approche constructive avec la Russie en nous fondant sur l'unité, la solidité de notre alliance, et en tenant compte, bien sûr, de l'évolution de l'environnement sécuritaire. Quant à la durée de présence de nos bataillons, il n'y a pas de décision qui a encore été prise pour cette présence dans les États baltes et en Pologne. Il s'agit là d'un élément d'une adaptation de notre posture de défense qui est beaucoup plus large et qui nous permet d'avoir cette présence avancée avec ces bataillons, davantage aussi de prépositionnement d'équipements, de matériel. Et nous avons aussi renforcé notre capacité à assurer la montée en puissance de nos forces si nécessaire. Donc ce sont toutes ces mesures ensemble qui constituent l'adaptation de notre posture de défense face aux nouveaux défis sécuritaires.
Merci. Mikhail Khrostukov de Kommersant. Vous l'avez dit au début de votre intervention, l'OTAN a déjà pris beaucoup de mesures pour renforcer sa présence au flanc Est. Or, certains pays de l'Europe de l'Est, l'Estonie, la Pologne, la plupart des États baltes, demande à plus de troupes OTAN, plus d'exercices et une plus grande présence de l'OTAN dans la région. Avez-vous des limites que vous vous auto-imposez en ce qui concerne le renforcement de cette présence ou allez-vous simplement vous aligner aux demandes de ces pays de l'Europe de l'Est? Alors, l'OTAN prend des mesures défensives, proportionnelles et dans le droit fil de nos obligations et engagements internationaux, y compris de l'acte fondateur OTAN-Russie. Nous reverrons régulièrement les besoins et notre posture de défense, mais il est certain que ce que nous avons fait, ça ne doit faire aucun doute, c'est en réaction aux mesures, aux actions de la Russie en Crimée et en Ukraine, parce qu'avant l'annexion illégale de Crimée, et avant la politique de déstabilisation de la Russie à l'égard de l'Ukraine orientale, personne n'avait envisagé ces questions de présence militaire de l'ordre de celles que nous aurons maintenant sur le flanc est de l'Alliance, dans les pays baltes et en Pologne. Donc, cela est en réponse aux actions de la Russie, mais nous ne voulons pas la confrontation avec la Russie, nous ne voulons pas une nouvelle guerre froide, nous continuerons à maintenir le dialogue et appeler à une relation constructive parce que nous pensons que cela est non seulement important pour nous, mais à long terme, que cela sera également avantageux pour la Russie et pour nous tous dans la zone euro-atlantique. Je donne la parole à Belga au deuxième rang de la télévision belge. Je voudrais poser une question sur la Belgique et les dépenses en termes de défense pour la Belgique, qui ne sont évidemment pas très élevées. Nous sommes bien loin des 2% que vous aviez mentionné. Pouvez-vous faire des commentaires sur cela? Pensez-vous que nous allons tous dans la bonne direction à long terme, mais que nous devrions peut-être être plus actifs à court terme pour accroître ces dépenses? Alors, je l'ai dit, réponse. Pour les dépenses en termes de défense, la situation, le tableau est assez mitigé. Même s'il est meilleur, la situation est meilleure. C'est-à-dire qu'il y a différents alliés qui ont des dépenses en termes de défense à des niveaux très différents. Certains ont dépassé les 2%. Les États-Unis, en l'occurrence, dépassent 3% de leur PIB pour la défense. Le Royaume-Uni, l'Estonie, la Pologne sont des alliés européens qui également dépensent plus de 2%, et je m'en félicite. Et puis, il y a de plus en plus d'alliés qui dépensent moins de 2%, qui dépensaient moins de 2%, mais qui ont commencé à accroître et évoluer vers ce jalon de 2%. Mais comme je vous l'ai dit, le tableau est encore assez mitigé. Je m'attends à ce que tous les alliés respecte ce que nous avons approuvé au pays de Galles en tant que 28 alliés et qu'ils s'y tiennent lorsque nous nous réunirons et en 2014, tous les chefs d'État et de gouvernement avaient décidé d'interrompre cette réduction, d'accroître progressivement, de viser les 2%. Mais la première étape, c'est d'abord d'arrêter les diminutions, les réductions, et après augmenter. Je m'attends à ce que la Belgique se tienne à cet engagement. J'en ai discuté avec le Premier ministre belge récemment. J'ai également soulevé cette question dans toutes les capitales où je me suis rendue. Les dépenses en termes de défense sont un point important à mon ordre du jour. J'en ai discuté avec tous les chefs d'État et les ministres que j'ai rencontrés, parce que nous ne pourrons jamais mettre à disposition les capacités, les forces nécessaires pour assurer à la fois la défense collective et faire face aux défis de sécurité, aux turbulences que nous voyons au sud de l'Alliance, la violence en Irak, en Syrie, et le Moyen-Orient. Donc, les dépenses en termes de défense sont prioritaires dans mon ordre du jour. Je me félicite le fait que nous allons dans le bon sens, dans la bonne direction, parce qu'après beaucoup d'années de coupes sombres, c'est la première année, 2015, où nous y a une petite augmentation. Ce n'est pas une augmentation énorme, mais c'est déjà une augmentation. Il est toujours mieux d'augmenter que de continuer à diminuer. Et surtout, en 2016, si nous continuons, je pense, à avoir cette augmentation selon mon dernière estimation. Question, Monsieur Stoltenberg, vous avez dit que les membres de l'OTAN devaient augmenter leurs dépenses en termes de défense à concurrence de 2% du PIB. Est-ce que le Monténégro devra s'en tenir à cette obligation une fois qu'il deviendra membre de l'OTAN? Et quelles sont les autres obligations qui seront liées à cette question en termes de financement, de dépenses pour le Monténégro lorsqu'il deviendra membre de l'OTAN? Réponse, le Monténégro deviendra membre de l'OTAN dès que les 28 alliés auront ratifié le protocole d'adhésion que nous avons signé il y a quelques semaines. Certains alliés l'ont déjà ratifié. Le Monténégro se rapproche vraiment de cette adhésion totale à l'OTAN, et le Monténégro sera évidemment engagé par rapport aux mêmes objectifs et tenu par rapport aux mêmes obligations que tous les autres alliés de l'OTAN. En l'occurrence, le Monténégro va devoir accroître ses dépenses en termes de défense et viser ce jalon de 2%. Alors, certains alliés sont plus grands que les autres, mais 2%, c'est une mesure, c'est une indication qui me paraît équitable et permet de responsabiliser tous les alliés dans la défense de l'Alliance. Donc, la contribution du Monténégro est aussi importante et je pense que les Monténégrins tiendront cet engagement. Et c'est vrai pour la Belgique et tous les autres alliés par rapport à l'engagement qui avait été pris.
Radio Liberté, bureau de Kiev. Le gouvernement ukrainien s'attend à ce que mercredi, donc le 15 juin, l'OTAN approuve le dernier paquet de mesures d'assistance. Est-ce qu'il y a des progrès? Pouvez-vous nous dire ce que ce paquet va contenir? Réponse. Nous allons tenir une réunion mercredi de la commission OTAN-Ukraine. Et l'un des principaux sujets qui sera soulevé sera la façon dont l'OTAN peut continuer à apporter un soutien à la fois pratique et politique à l'Ukraine. Et notamment, il s'agit de l'ensemble de mesures qui devraient, comme nous l'espérons, être approuvées par les ministres. Ce sera là encore une illustration de la manière dont les alliés de l'OTAN apportent un soutien à l'Ukraine. Il s'agit d'un soutien à la fois politique, c'est-à-dire réaffirmer la défense de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi sur le plan pratique, avec toutes nos activités de conseil, d'aide à la mise en œuvre des réformes. Les réformes qui doivent permettre de lutter contre la corruption, moderniser les institutions de défense, tout cela est très important pour l'Ukraine et donc l'OTAN va poursuivre dans cette voie. Il y aura davantage de détails qui pourront être donnés après l'approbation mercredi. Wall Street Journal. Monsieur le secrétaire général, deux questions. Tout d'abord, que pouvez-vous nous dire concernant le commandement et le contrôle de la force de dissuasion à l'Est? Est-ce que il y aura un commandement du pays hôte ou bien est-ce que cela va relever des NFIU ou d'une autre structure de l'OTAN? Puis vous avez parlé de la liberté de circulation en Europe. Pouvez-vous nous dire, à votre avis, quels sont les prochains défis auxquels l'OTAN va devoir encore s'attaquer pour assurer une plus grande circulation de ses troupes? Réponse. Les bataillons que nous allons déployer sous forme de rotation dans les États baltes et en Pologne seront sous commandement de l'OTAN. Ils ne seront pas sous commandement national. Ils vont bien relever d'un commandement de l'OTAN. Et cela permet de renforcer notre commandement avec des QG multinationaux, donc le QG multinational nord-est et le QG multinational sud-est, au niveau de corps d'armée et de division, qui s'inscrivent dans cette structure de commandement qui est nécessaire pour la présence multinationale de l'OTAN au sud-est et au nord-est de l'Europe. Et puis, vous aviez une deuxième question sur les défis restants. Oui, alors, jusqu'à présent, nous avons traité tous les obstacles juridiques qui entravaient la liberté de circulation. Là, il a fallu faire tout ce travail bureaucratique, administratif, pour arriver à déplacer plus rapidement nos forces à travers l'Europe. Ces obstacles ont été éliminés, nous avons déjà bien progressé et c'est devenu donc beaucoup plus facile de déplacer nos forces sans être entravés par ces obstacles bureaucratiques. Par contre, ce qu'il nous reste encore à faire, c'est de nous assurer que nous avons bien toutes les infrastructures dont nous avons besoin. Effectivement, c'est une chose sur le plan juridique d'avoir le droit de déplacer des équipements militaires, des chars et ainsi de suite en en employant un transport aérien, mais ensuite, il faut que les avions puissent atterrir sur des terrains adaptés. Donc, il y a toute une série de questions qui concernent les capacités, l'infrastructure. Les capacités des ports aériens, maritimes, où nous demandons aux pays alliés de nous fournir les informations dont nous avons besoin pour essayer, là aussi, de pouvoir avancer.
Canal 24, Ukraine, Monsieur le Secrétaire général, la situation à l'est de l'Ukraine s'est gravement détériorée. Et plus particulièrement, les diverses vagues ont été très fortes et nous avons beaucoup de pertes à l'est de l'Ukraine, même si Kiev le dément. Alors, quel est le point l'OTAN, quel est le rôle de l'OTAN à l'est de l'Ukraine? Nous sommes vivement préoccupés par toutes les violations poursuivies du cessez-le-feu dans la région. Et nous sommes également vivement préoccupés par le nombre élevé de victimes dans les combats dans la région est de l'Ukraine. Pour moi, tout cela souligne encore une fois le fait qu'il est important de faire le maximum pour que le cessez-le-feu soit respecté et que les observateurs puissent être là pour surveiller. Et nous voyons que certains de leurs drones ont été abattus, et cela régulièrement. Donc nous devons utiliser toute notre influence et tous les efforts, consentir tous les efforts nécessaires pour d'abord que le cessez-le-feu soit respecté et que les observateurs puissent faire leur travail. Aussi, je salue les efforts menés par plusieurs pays, mais plus particulièrement deux alliés de l'OTAN, la France et l'Allemagne, qui travaillent constamment pour voir comment pouvoir mettre en œuvre, renforcer et respecter pleinement les accords de Minsk. Et la Russie également a sa responsabilité, car la Russie continue à apporter son appui aux rebelles, aux séparatistes, à l'est de l'Ukraine, en équipement. Et il faut qu'il y ait le retrait des armes lourdes et la mise en œuvre pleine et totale de l'accord de Minsk. Il n'y a pas d'autre alternative à une solution pacifique négociée en Ukraine que les accords de Minsk. Dernière question, CBS. Question. Pourriez-vous nous donner davantage d'informations sur les discussions visant à désigner un chef de renseignement? J'ai entendu des rumeurs. Je ne sais pas très bien si vous allez pouvoir faire avancer cela durant la réunion. Et sur l'aide apportée à la Libye, la violence se poursuit, il perd du terrain, mais y aurait-il une mission possible pour apporter le soutien au gouvernement libyen? Réponse. L'OTAN a déjà fait beaucoup pour renforcer le recueil de renseignements et également le traitement et le partage des renseignements entre les alliés OTAN. C'est un point pour lequel nous avons déjà fait beaucoup. Et un des avantages majeurs de l'OTAN, c'est que nous sommes une alliance qui a prouvé qu'elle était à même de d'échanger des informations classifiées en tant que telles, et cela constitue évidemment un avantage majeur pour tous nos alliés. Nous allons maintenant voir si nous pouvons encore améliorer cela davantage en ayant un secrétaire général adjoint pour la division renseignement, donc un nouveau poste. Alors, il y a un processus qui est en cours sur lequel nous nous penchons. Nous avons également avancé, fait des progrès. Je pense que nous aurons un accord lors du sommet, mais cela n'est pas encore déjà complètement bouclé. Et nous nous devrons attendre pour voir ce qui est réalisable d'ici au sommet, mais je pense que nous aurons un accord au moment du sommet pour justement nommer un nouveau secrétaire général adjoint pour les renseignements, délégué pour les renseignements. Pour ce qui est de la Libye, nous poursuivons le dialogue avec le nouveau gouvernement d'entente nationale. J'ai parlé, je me suis contacté le Premier ministre Roche, qui a manifesté son intérêt pour une assistance de la part de l'OTAN. Nous allons voir quels pourraient être les contours de cette aide. Nous n'envisageons pas de présence de troupes de combat de l'OTAN. Nous nous concentrons surtout sur l'assistance que pourrait apporter l'OTAN pour le renforcement et des institutions. Des institutions telles que le ministre de la Défense, les structures de commandement, pour que ces institutions puissent s'organiser et contribuer à la stabilisation du pays et lutter contre l'EI. Mais l'OTAN n'apportera cède à ce nouveau gouvernement libyen qu'à sa demande et dans le cadre d'un effort plus large de la communauté internationale pour la Libye. Merci. Nous n'avons plus de temps pour d'autres questions. Il y a eu beaucoup de questions que vous n'avez pas pu poser, mais vous aurez d'autres occasions durant la ministérielle. Merci.